Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers amis, d'abord je voudrais m'excuser pour un petit problème technique que j'ai eu avec le dernier cours. Mon système d'enregistrement s'est arrêté mystérieusement. Après 43 minutes, j'ai pas eu le courage de refaire complètement la conférence, donc je l'ai mise sur le site tel quel. Et pour ce cours, j'essaierai d'être un peu plus long pour que vous en ayez pour votre argent, comme on dit vulgairement, pour que vous puissiez vraiment travailler une heure par semaine pour ceux qui suivent avec régularité ce cours. Nous en sommes sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église des cinq premiers chapitres de Saint Jean, la page 46, au verset 19, toujours dans ce beau passage de la Samaritaine. Donc, qui est venu puiser au puits de Jacob et qui va rencontrer notre Seigneur, qui va lui proposer une eau surnaturelle, tout à fait supérieure à l'eau naturelle qui était venue puiser. Donc, commençons par les versets 19 à 24 du chapitre 4 de Saint Jean. La femme lui dit, Seigneur, je vois bien que vous êtes un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, « Femme, croyez-moi, l'heure vient, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Un texte très élevé, donc, qui montre la nécessité de l'adoration personnelle, l'adoration à l'intérieur de notre âme. Dieu, c'est une chose qui est bien difficile à comprendre pour les esprits modernes, Dieu a un droit strict à être adoré. Non seulement il a un droit strict à être adoré, mais il veut être l'unique Dieu à être adoré. Il ne tolérera pas l'adoration des faux dieux. Je suis le Seigneur votre Dieu, vous n'aurez pas de faux dieux devant moi. Cette adoration en esprit et en vérité est une adoration qui est bien difficile à obtenir parce que c'est ce qu'on appelle la vie intérieure. Beaucoup de gens ont mal fou à comprendre ces choses-là. Ils reconnaissent qu'il faut une vie corporelle, il faut manger, il faut travailler pour pouvoir vivre, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'une vie intérieure est tout à fait nécessaire parce que l'homme est un composé de corps et d'âme. Donc il faut une vie physique pour s'occuper du corps, mais il faut aussi une vie intérieure pour s'occuper de l'âme. Et un être humain qui ne s'occuperait que de la vie intérieure, de la vie corporelle, et qui négligerait complètement la vie intérieure, deviendrait totalement déséquilibré. C'est exactement ce qui se passe dans le monde moderne. Voilà pourquoi beaucoup de nos fidèles ont du mal avec ce qu'on appelle la prière mentale. La prière mentale, c'est la prière de l'esprit. La prière vocale est plus facile. Mais on peut dire que la prière vocale est au corps ce que la prière mentale est à l'esprit. Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. Et donc, une des meilleures façons d'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est de l'adorer justement avec la prière mentale, la prière de l'esprit. Parler à Dieu comme on parle à notre roi, bien sûr, mais aussi comme on parle à notre meilleur ami. Et souvent, c'est triste de voir souvent des catholiques qui nous demandent, Monsieur l'abbé, apprenez-moi à prier, je ne sais pas parler au bon Dieu. Imaginez, je donne toujours cet exemple qui est à mon avis très frappant, imaginez un homme qui dit, voilà, j'aime mon épouse, je ne sais pas comment lui dire, apprenez-moi à dire à mon épouse, je t'aime. Un époux qui n'est plus capable de dire à son épouse qu'il l'aime et de trouver les mots pour lui manifester son amour est un époux qui n'aime pas vraiment son épouse, et là c'est pareil. Donc la prière vocale est importante. Par exemple, quand on dit le chapelet, on prie vocalement, mais il faut qu'elle soit, cette prière vocale soit accompagnée d'une prière mentale, de la prière de l'esprit. Simplement être devant le Saint-Sacrement. Et dire au bon Dieu, voilà mon Dieu, je suis là, je suis un pauvre type, j'ai bien des difficultés, bien des misères, mais je vous adore avec mes difficultés et mes misères. Rappelez-vous ce paysan des Dombes qui disait, comment il expliquait au Saint Curé d'Ars comment il priait. Je l'avise, j'avise le bon Dieu et il m'avise. C'est exactement ça. Et c'est ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ. Il va donc expliquer à cette femme comment avoir cet esprit d'adoration. Rappelez-vous, on voit ça dans la période de l'Épiphanie que nous sommes en train de traverser. Eh bien, rappelez-vous donc ces trois dons que Dieu a voulu recevoir. J'ai expliqué dans un sermon que Dieu exige de recevoir de chacun d'entre nous l'or, l'encens et la myrrhe. Ce n'est pas simplement un don que doivent donner les rois mages. Ils ont donné l'or, l'encens et la myrrhe, mais en fait, tous les hommes doivent donner l'or, l'encens et la myrrhe à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils doivent le reconnaître comme l'homme de douleur, donc lui donner la myrrhe, le reconnaître comme le Dieu créateur et rédempteur, et donc lui donner l'encens, mais lui donner aussi l'or parce qu'il est le roi. Et en donnant notamment l'encens, on reconnaît que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, que cet enfant couché dans la crèche, enveloppé de l'ange et Dieu, et donc a un droit strict à être adoré, et l'unique Dieu à avoir ce droit strict d'être adoré, donc Dieu a le droit d'être adoré par chacune de ses créatures, pas simplement par les catholiques, parce que les non-catholiques vont être jugés par notre Seigneur Jésus-Christ, donc devront l'adorer. Oui. Donc il n'y a pas de liberté de conscience dans cette histoire-là. Alors, voyons un petit peu les commentaires des pères de l'Église. Dans cette persuasion, dans page 46, où la Samaritaine est, elle ne demande à notre Seigneur Jésus-Christ aucun des biens de la terre, aucune des choses qui ont rapport à cette vie. Elle ne se soucie ni de la santé, ni de l'opulence, ni des richesses, et ne cherche qu'à s'instruire de la doctrine céleste. Il est évident que cette femme cherche Dieu. Elle cherche Dieu, elle va le trouver. Et notre Seigneur Jésus-Christ va se révéler à elle parce qu'elle cherche Dieu. C'est pour cela qu'on a une intelligence. Avec notre intelligence, l'objet de notre intelligence, c'est la recherche du vrai. Chercher le vrai, et une fois qu'on l'a trouvé, l'atteindre par la volonté et l'usage de nos passions contrôlées par le cœur. Donc, elle, qui ne ressentait d'abord que les atteintes de la soif, elle n'était occupée que des moyens de la calmer, n'a plus qu'une pensée, celle de connaître la vérité. Donc, elle arrive au puits de Jacob pour chercher de l'eau naturelle. Et Dieu va élever son âme pour lui donner une autre eau bien plus riche que la première. Elle cherche le vrai, elle va le trouver. Celui qui cherche, trouve. Rappelez-vous la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Est-ce que nous avons ce désir de nous instruire de la doctrine céleste? Est-ce qu'on cherche Dieu? Regardez tout ce que font les gens aujourd'hui dans ce monde de fous dans lequel on vit, pour s'accaparer les richesses matérielles. Ils sont capables d'aller au sommet des montagnes ou au fond des mers pour acquérir les richesses matérielles. Regardez ce que font les gens pour se protéger d'une maladie plus ou moins imaginaire comme le Covid. Eh bien, ils sont capables de dépenser des milliards dans des vaccins qui n'en sont pas, alors que s'ils faisaient le tiers de ce qu'ils font pour protéger leur corps, pour s'occuper de leur âme, ils seraient tous des saints depuis longtemps. Donc, nous aussi, il faut chercher Dieu, chercher le vrai pour adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Le problème, c'est que le démon le sait et il va couvrir nos cœurs de cette concupiscence des yeux, de la chair, de l'orgueil, pour remplir notre cœur des choses matérielles.
l'opulence, la richesse, la santé, et ce qui fait qu'il n'y a plus de place pour la doctrine céleste, plus de place pour le bon Dieu. Et c'est pour ça que les gens modernes ont tellement de mal, on le voit aux exercices de Saint-Ignace, ont tellement de mal à s'occuper d'avoir une prière mentale, parce que leur âme est pleine de choses matérielles. Et donc pour pouvoir pratiquer la prière mentale, prière de l'esprit, mens, c'est l'esprit en latin, pouvoir s'occuper de chercher Dieu, il faut commencer par faire du vide. Pourquoi croyez-vous que dans le monde moderne, entre autres les adolescents, sont accaparés à ce point par les écrans et tout ce qui tourne autour de l'électronique et de l'informatique? Et pourquoi? Parce que le démon le sait, donc il va pousser ces jeunes à se jeter à corps perdu dans ces choses matérielles, parce qu'il sait très bien, il est un ange des ténèbres, le démon sait très bien ce qu'il fait, que si ces jeunes se précipitent sur ces choses matérielles, il n'y aura plus de place pour les choses surnaturelles. Alors, il faut demander cette grâce, nous aussi, de rechercher Dieu en esprit et en vérité. La Samaritaine va recevoir ce don de Dieu, et elle va recevoir cette eau surnaturelle, c'est-à-dire qu'elle va recevoir le Saint-Esprit, elle va recevoir la foi. Mais nous, il faut qu'on fasse la même chose. Comme les Juifs de qui vient le salut sont figure de ceux qui n'admettent que la saine doctrine, tandis que les Samaritains sont l'image de ceux qui se livrent à tous les caprices et divers de l'erreur, le mot garizim, c'était le lieu où il y avait le temple des Samaritains. Le mot garizim, qui veut dire distinction ou division, représente les Samaritains comme la montagne de Sion, qui signifie lieu d'observation, représente les Juifs. La montagne de Sion, c'est Jérusalem. Donc les Juifs adoraient à Jérusalem, les Samaritains adoraient à Garizim, au mont Garizim. C'est pour ça qu'ils étaient considérés comme des hérétiques, comme des schismatiques par les Juifs. Donc, le mari de cette femme est présent. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ a demandé à la Samaritaine d'aller chercher son mari. Le Sauveur peut donc lui dire, croyez-moi, vous êtes ici présente par votre intelligence, mais si vous ne croyez point, vous ne comprendrez point. Donc, petit à petit, notre Seigneur va élever l'esprit de cette Samaritaine pour qu'elle puisse découvrir la vérité. Il faut d'abord connaître. Le premier degré, la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Connaître Dieu pour comprendre. On connaît Dieu pour le comprendre et on le comprend pour pouvoir l'aimer. Le but, c'est le troisième degré, l'amour du bon Dieu. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne comprend pas ou qu'on ne cherche pas à comprendre. Mais c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Avec les hommes, plus on les connaît, en général, moins on les aime, parce que plus on connaît leurs défauts. Avec le bon Dieu, c'est l'inverse. Plus on connaît notre Seigneur Jésus-Christ, plus on veut le comprendre, et plus on veut le comprendre, plus on l'aime. Parce que plus on découvre que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique perfection. Je dis toujours à mes fidèles, la seule personne qui vous décevra jamais, c'est le bon Dieu. Personne d'autre. Vous serez toujours déçu par les hommes, vous serez toujours déçu par la belle fille d'une façon ou d'une autre. La seule personne qui vous décevra jamais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est en lui qu'il faut chercher, qu'il faut trouver ce que nous cherchons. Autre commentaire d'Alcuin, ces paroles, l'heure vient. C'est au verset 23. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc l'heure vient signifie le temps de la doctrine qui était proche, où toutes les figures devaient disparaître pour céder la place à la vérité qui devait répandre ses plus pures lumières dans l'âme de ceux qui devaient embrasser la foi. Alors voyons un petit peu ce que signifient ces choses. Donc la doctrine évangélique, c'est la doctrine qui va être annoncée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le point d'aboutissement de tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, en quelque sorte, sont des marches qui montent à l'autel. L'autel, c'est l'autel du sacrifice du Vendredi Saint. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a préparé sa venue par tous les prophètes pendant des siècles et des siècles, pendant les 5000 ans à peu près, qui ont séparé Adam et Ève de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, entre 5 et 7000 ans. Eh bien, pendant toute cette période-là, par les prophètes, Dieu a préparé l'intelligence et l'âme des Juifs à accepter l'arrivée du Messie. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive, c'est le temps de la doctrine évangélique. C'est-à-dire, on passe l'Ancien Testament au Nouveau Testament. À la Passion, le rideau du temple va se déchirer pour bien montrer que ce temps de l'Ancien Testament est terminé, qu'il faut maintenant passer à la doctrine évangélique, c'est-à-dire la doctrine basée sur la prédication de l'Évangile, c'est-à-dire sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, une immense majorité des Juifs, déjà à l'époque du Christ, n'ont pas accepté ce prophète. Et pour les prophéties d'Ancien Testament, et au lieu d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ, ben, vont le rejeter. Autre interprétation d'Origène, ici va expliquer la désignation des Samaritains. C'est au verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Origène dit que ce mot « vous » désigne les Samaritains. Dans le sens allégorique, l'Ancien Testament qui représente le Nouveau Testament, dans le sens allégorique, il s'applique à ceux qui interprètent les Écritures dans un sens contraire à celui de l'Église, mais dont la doctrine est tout autre et par la même erronée. N'oubliez pas que les Juifs considéraient les Samaritains comme des schismatiques. Bien, c'est la même chose aujourd'hui. On voit très bien comment l'Église de Vatican II a voulu se couper de l'interprétation traditionnelle de l'Église, notamment dans l'explication de l'Écriture sainte, et en voulant se couper de l'interprétation traditionnelle de l'Église, sont tombés dans le schisme d'abord, puis dans l'hérésie. En face de nous, aujourd'hui, on ne peut même plus dire que l'Église de Vatican II soit une Église schismatique, c'est beaucoup pire que ça, c'est une Église complètement hérétique. On le voit très bien par l'enseignement constant maintenant de Bergoglio, qui passe sa vie littéralement, qui ne fait qu'utiliser sa puissance qui est énorme pour la destruction du christianisme et de la foi catholique traditionnelle, alors que le rôle du pape, en principe, devait être de garder le dépôt de la foi. Garder le dépôt de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire fidélité à la doctrine évangélique telle qu'elle nous a été donnée et transmise par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, à partir du moment où je cherche à interpréter les Écritures dans un sens contraire à celui de l'Église, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que le sens traditionnel de l'Écriture sainte nous est donné par les pères de l'Église, eh bien, si je cherche à interpréter les choses de façon différente, je me coupe de la doctrine évangélique, et donc je tombe dans le schisme, puis dans l'hérésie. De même, le pronom « nous », reprenons le verset 22, « vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Le pronom « nous », dans le sens littéral, désigne les Juifs, et dans le sens allégorique, le Verbe divin. Aussi bien que ceux qui ont avec lui une bienheureuse conformité, qui parviennent au salut par les Écritures, qui sont entre les mains des Juifs. Donc il y a deux mondes, si vous voulez, qui vont s'opposer. Le monde de ceux qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont ici allégoriquement représentés par les Samaritains et le mont Garizim, et ceux qui au contraire vont adorer le véritable Dieu, qui vont suivre la doctrine évangélique représentée par le mont Sion, c'est le mont Jérusalem, l'Église catholique et la nouvelle Jérusalem. Et donc il nous faut nous aussi chercher à avoir cette conformité avec la doctrine évangélique et suivre ce que notre Seigneur Jésus-Christ a toujours enseigné. Et on ne peut pas avoir cette conformité avec la doctrine évangélique sans suivre évidemment l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ donc va répéter deux fois « l'heure vient ». La première fois sans ajouter « la voici, elle est venue », la seconde fois en ajoutant « et elle est venue ». Je crois que la première fois, notre Seigneur Jésus-Christ, en bas de la page 46, je crois que la première fois, notre Seigneur veut exprimer l'adoration parfaite de l'âme affranchie du corps dans notre vie, que la seconde fois, il veut parler de celle que nous rendons à Dieu dans la vie présente avec toute la perfection possible à la nature humaine. Donc, l'adoration que nous devons pratiquer ici-bas n'est qu'une préparation à l'adoration permanente qui sera la nôtre au ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est l'adoration permanente de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité parce que nous aurons quitté le temps. Ici, notre adoration, notre Seigneur Jésus-Christ est imparfaite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps. Qui dit temps dit imperfection. Au contraire, lorsqu'on a quitté le temps par la mort, qu'on est passé dans l'éternité, pour ceux qui, évidemment, sont dans l'éternité bienheureuse, à ce moment-là, notre unique occupation sera adoration divine. Il n'y aura plus de distraction. C'est ça qui est extraordinaire. On pourra adorer notre Seigneur Jésus-Christ, être immergé dans sa divinité et l'adorer à longueur de journée, à longueur d'éternité. On ne cherchera plus à voir autre chose. Aujourd'hui, on est incapable de mettre notre esprit sur une chose. On a tellement de distractions que tout de suite, on commence à courir à droite et à gauche. Au ciel, il n'y aura plus de distractions. Parce qu'on sera coupé, justement, des concupiscences de la chair, concupiscences des yeux, concupiscences de l'orgueil de la vie. Et nous aurons une pureté d'adoration parce que, justement, notre corps sera devenu un corps glorieux après la résurrection, la fin des temps, et même avant. Pour ceux qui sont au ciel déjà, ils y sont sans leur cœur, sans leur corps, pardon, mais leur âme sera en quelque sorte tellement imprégnée de divinité qu'elle ne cherchera plus autre chose. Souvent, les catholiques me posent cette question, mais monsieur l'abbé, au ciel, est-ce que je pourrais encore aimer mon mari? Est-ce que je pourrais encore aimer mes enfants? La réponse est, il n'y aura même plus besoin. C'est pour ça que le mariage s'éteint à la mort. Donc, au ciel, il n'y a plus d'époux et d'épouses. Vous aimez tendrement votre époux, l'époux aime tendrement son épouse ici-bas sur la terre, c'est son devoir d'État, c'est leur devoir d'État, mais une fois qu'ils seront au ciel, il n'y aura plus besoin, on ne sera plus dans le temps. Donc, puisqu'on aura passé le cap de la mort, il n'y aura plus d'époux et d'épouses, il n'y aura plus de famille. On n'aura même plus à aimer nos enfants parce qu'on sera tellement immergé dans l'amour de Dieu qu'on ne cherchera rien d'autre. Et ça, beaucoup de fidèles ont du mal à comprendre ça. Souvent, les personnes très âgées me disent, vous savez, je demande au bon Dieu de venir me chercher pour pouvoir retrouver mon mari au ciel. Bon, je leur dis pas parce que ça leur ferait de la peine, mais ils se rendent pas compte que au ciel, quand elles y seront, si elles y vont, ces personnes n'auront plus besoin de rechercher leur mari. Parce qu'une fois qu'on verra Dieu, on n'aura plus aucun autre désir. Dieu devient l'unique désir. C'est ça la difficulté ici-bas sur la terre. On a mal fou à prier parce que notre âme, si vous voulez, est accaparée par des millions et des millions de désirs différents. Donc ce sont des distractions. C'est pour cela que le prêtre ne peut pas se marier parce qu'il doit être tout à Dieu. S'il doit en même temps plaire à sa femme et essayer de survenir aux besoins de sa famille, de son épouse, eh bien son âme va être partagée, il ne pourra pas être complètement à Dieu. Bon, malheureusement, ici-bas, on est bien obligé de s'occuper un peu des choses matérielles. Moi, en tant que prêtre, il faut aussi que je m'occupe des biens matériels que j'ai à ma disposition. Il faut que je m'occupe de payer les factures. Il faut que je m'occupe de maintenir la maison en ordre. Il faut que je m'occupe de nourrir les gens de ma maison, etc. Mais ce sont des distractions. Au ciel, il n'y aura plus besoin de tout cela. Donc, la perfection de la vie présente, qui est limitée, prépare à la perfection de la vie, de la vie une fois que l'âme est affranchie du corps. Une fois qu'elle est passée dans l'autre monde, pour ceux qui meurent en état de péché mort, en état de grâce, après le temps de purgatoire, donc on pourra être uni à Dieu de façon totale, de façon parfaite, et là il n'y aura plus de limite. On sera tellement immergé dans notre Seigneur Jésus-Christ qu'on n'aura plus d'autres désirs. Donc une épouse cherchera même plus à savoir si son époux est au ciel. Souvent, c'est une question qu'on nous pose, monsieur l'abbé. Je crois que la première chose que je vais demander au bon Dieu, lorsque je serai au ciel, c'est de savoir où est mon époux, où sont mes enfants, s'ils sont morts avant moi, où sont-ils, est-ce qu'ils vont aller au ciel? Mais au ciel, il n'y aura plus besoin de savoir tout ça. On sera tellement immergé dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on ne se préoccupera même plus de l'époux, de l'épouse et des enfants. C'est une chose qui est difficile à comprendre. Alors donc, que sera venue la première heure prédite par le Sauveur, en haut de la page 47. Il nous faudra éviter la montagne des Samaritains et adorer Dieu dans Sion, où est Jérusalem, qui est appelée par Jésus-Christ la cité du grand roi. Mais pas que Jérusalem, ça représente la vision de paix. Alors que le mont Garizim, le Samaritain, représente le monde d'ici-bas, le monde du démon, le monde qui est sous le contrôle du démon, que l'Écriture sainte appelle la Babylone. Donc il y a Jérusalem et Babylone. Jérusalem, c'est le monde du ciel. Babylone, c'est le monde des ténèbres. Le monde d'ici-bas. Et il va falloir, si vous voulez, que nous quittions la ville de Babylone pour aller dans la ville de Jérusalem. La cité du grand roi, c'est la cité de Jérusalem. La cité de l'adoration permanente du grand roi. Et donc au contraire, si je laisse mon cœur avec la cité d'ici-bas, la cité de Garizim, la cité des Samaritains, mais je vais adorer la Babylone, c'est-à-dire la confusion. Babylone, ça veut dire confusion. C'est là où on voit très bien les deux étendards dont parle Saint Ignace dans ses exercices, l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ et l'étendard, au contraire, du démon, l'étendard du démon dans Babylone, l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Jérusalem céleste. Donc c'est l'Église, cette Jérusalem céleste, où l'oblation sainte et les victimes spirituelles sont offertes en présence de Dieu par ceux qui ont l'intelligence de la loi spirituelle. Mais lorsque l'ordre des siècles sera révolu, il ne faudra plus songer à rendre le vrai culte à Dieu dans Jérusalem, c'est-à-dire dans l'Église de la terre, car les anges n'adorent plus Dieu dans Jérusalem. Ainsi, ceux dont les Juifs n'étaient que la figure adorent le Père d'une manière bien supérieure à ceux qui habitent Jérusalem. Jérusalem, si vous voulez, représente encore l'Église d'ici-bas. Donc, il y a plusieurs Jérusalem. Il y a d'abord la Jérusalem terrestre, la ville de Jérusalem en Palestine. La capitale de la Palestine, c'est Jérusalem. Donc là, c'est la Jérusalem terrestre qui symbolise la Jérusalem qui est l'Église catholique. La nouvelle Jérusalem, c'est l'Église catholique qui va venir prendre la place de la Jérusalem terrestre. La Jérusalem terrestre, si vous voulez, représente le peuple de l'Ancien Testament, qui va laisser la place au peuple du Nouveau Testament. La Jérusalem terrestre laisse la place à la cité de Jérusalem, qui est représentée par l'Église catholique. Mais cette Jérusalem de l'Église, qui est l'Église catholique, prépare une autre Jérusalem, la troisième Jérusalem, qui est la Jérusalem du ciel. Vous voyez ? Donc, cela est symbolisé aussi par les trois parties de la vie spirituelle. La vie purgative, la vie illuminative, la vie unitive. La vie purgative, c'est la Jérusalem terrestre. La vie purgative, la Jérusalem terrestre. La vie illuminative, on passe déjà dans l'Église catholique. Et la Jérusalem céleste, c'est la cité du paradis. C'est aussi représenté par les trois parties de l'Église catholique. Rappelez-vous, la partie militante, l'Église catholique est à la fois militante, souffrante et triomphante. Donc l'Église militante, c'est l'Église d'ici-bas. Miles en latin, c'est le soldat, c'est la partie de combat. Nous sommes en combat ici pour nous maintenir dans le chemin qui mène au ciel. Après la mort, ce sera le passage au purgatoire, l'Église souffrante, l'Église du purgatoire, qui nous prépare à l'arrivée en l'Église triomphante. Et c'est pour ça qu'il y a cet échange de prières entre les membres de l'Église triomphante, de l'Église militante et l'Église souffrante qu'on appelle la communion des saints. La communion des saints est un support en quelque sorte qui permet à l'âme de monter de l'Église militante à l'Église souffrante et de l'Église souffrante à l'Église du ciel. D'accord ? Lorsque cette heure sera venue, chaque fidèle deviendra le fils du Père. C'est pour cela que notre Seigneur ne dit pas « Vous adorerez Dieu, mais vous adorerez le Père ». Dans la vie présente, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ou bien encore, il ajoute « En vérité, parce qu'il est, il en est beaucoup comme les hérétiques qui s'imaginent adorer Dieu en esprit, tout en se formant de fausses idées de sa divinité. » Voilà pourquoi Dieu demande une adoration en esprit et en vérité. Ça ne suffit pas d'esprit, d'adorer Dieu en esprit, il faut l'adorer en vérité, il faut adorer le vrai Dieu, et tel que le bon Dieu veut être adoré. On va me dire, mais il n'y a pas de liberté là-dedans. Il y a une certaine liberté, mais elle est limitée. Dieu doit être adoré, mais il doit être adoré tel qu'il veut être adoré. C'est pour ça que la messe est au centre de l'adoration. Et la messe est parfaitement codifiée, a été codifiée pendant les millénaires. Pendant les deux millénaires, deux derniers millénaires, il y a une codification de la messe qui permet justement de garder la fidélité à l'adoration telle qu'elle est voulue par Dieu. Le modèle d'adoration, c'est la Sainte Messe. C'est pour ça qu'on peut vraiment dire qu'au moment précis où le Saint-Esprit descend, Dieu descend avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, après les paroles de la consécration, on passe là, à ce moment-là, vraiment, en esprit, à la Jérusalem céleste. Donc, quand vous assistez à la Sainte Messe, c'est que la cloche retentit au moment de la génuflexion du prêtre, après les paroles de la première consécration, puis la deuxième consécration, vous passez vraiment dans la Jérusalem céleste. Donc, il faut assister à la Sainte Messe, au moment de la consécration, comme si vous rentriez au paradis. Bon, évidemment, notre montée au paradis, elle est brève, parce que ça va durer le temps de la messe. Dans la toute deuxième partie de la messe, à partir de la consécration, notre Seigneur Jésus-Christ est sur l'autel, avec son corps, son sang, son âme et ses divinités. Il faut l'adorer comme si nous étions au paradis. Et cela va s'achever sur la communion. C'est pour ça que normalement, un fidèle qui est en état de grâce doit communier à la Sainte Messe pour pouvoir justement participer à cette divinité, en quelque sorte être divinisé d'une certaine façon par la participation à la Sainte Messe, par la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, c'est quoi? Si vous voulez, c'est une union intime entre notre Seigneur Jésus-Christ d'une part et sa créature, ici-bas, nous-mêmes, notre esprit, notre âme. Peut-être même pourrait-on dire que notre Seigneur a voulu désigner ici les deux parties de la sagesse chrétienne considérées subjectivement, c'est-à-dire l'action et la contemplation. Donc il y a plusieurs interprétations possibles. L'action et la contemplation qui doivent se réconforter mutuellement, en quelque sorte se compléter. L'Église a toujours été très très prudente de mélanger cette action et cette contemplation. Il est trop dangereux d'avoir une vie purement contemplative. Même les moines les plus contemplatifs devaient avoir une vie active. Prenez l'exemple par exemple la fondation de Saint Bruno, les Chartreux. En principe, c'est les gens les plus contemplatifs. Eh bien, ils ont une vie d'action. Ils doivent avoir un travail manuel. L'Église a toujours été extrêmement prudente à l'égard, par exemple, des moines du désert qui voulaient vivre dans le désert un peu comme des ermites sans aucune vie de communauté. C'est dangereux et l'exiger, les évêques de l'époque exigeaient de ces moines un travail manuel. Ils devaient fournir un travail manuel et des preuves de ce travail manuel. En général, ils faisaient avec les feuilles de palmier, ils faisaient des tapis de sisal, des tapis qui était après vendu au profit du monastère pour nourrir les moines. Et chaque moine avait l'obligation de donner un certain nombre, toutes les semaines, tous les mois, donner un certain nombre de ses tapis pour prouver qu'il avait fait son travail manuel. Et c'est nécessaire pour équilibrer les choses. On ne pourrait pas vivre uniquement dans notre âme, en oubliant qu'on a un corps. L'âme est liée au corps. L'homme est un composé d'âme et de corps, donc il doit avoir une vie corporelle, mais aussi une vie spirituelle, et c'est le drame du monde moderne, qui du coup, donc, de même qu'il y a un danger d'être uniquement dans la vie spirituelle, d'oublier complètement qu'on a un corps, là on tombe dans des graves imprudences, mais le danger existe aussi de l'autre côté, des gens, c'est le monde moderne, qui ne s'occupent que de la vie corporelle et qui oublient complètement qu'il y a une vie spirituelle. Et c'est ça la terreur qui va être dans l'âme des gens qui meurent, qui ne sont jamais occupés du bon Dieu ici-bas, qui au moment de la mort vont se rendre compte qu'ils vont arrêter une vie temporelle pour entrer dans l'éternité. Mais c'est trop tard. Imaginez la terreur de ceux qui meurent et qui d'un seul coup vont découvrir qu'ils avaient été créés pour le ciel. Comme malheureux de savoir qu'il y a des gens qui sont capables de passer presque un siècle sur cette terre sans même savoir pourquoi le bon Dieu les y a mis. Et puis qui vont commencer à s'occuper de chercher à savoir pourquoi le bon Dieu les a passés sur cette terre au moment où ils sont dans une boîte qui s'appelle un cercueil quand ils sont sous 30 cm de terre. C'est un peu tard. Il faut s'en occuper avant. Donc je répète cette phrase. Notre Seigneur a voulu dessiner ici les deux parties de la sagesse chrétienne considérée subjectivement, c'est-à-dire l'action et la contemplation. L'esprit exprime la vie active, selon les paroles de l'apôtre, ceux qui sont poussés par l'esprit sont les enfants de Dieu. Là, une très belle phrase des pères, la vérité comme l'emblème de la vie contemplative. La vie contemplative, c'est quoi? C'est la contemplation de la vérité. Contemplation de la vérité. Ici-bas, on ne peut pas contempler la vérité en oubliant qu'on a un corps. Parce que malheureusement, le corps et l'âme sont complètement unis. Au moment de la mort, pour ceux qui vont au ciel après leur mort, c'est l'âme seule qui va aller au ciel, puisque le corps ne participera à la vie glorieuse au ciel qu'après la résurrection générale, à la fin des temps. Eh bien, quand l'âme monte au ciel, à ce moment, elle n'aura plus le poids du corps, qui est en quelque sorte comme un poids mort qui empêche l'âme de s'élever vers Dieu. Et l'âme va pouvoir à ce moment-là se lancer dans la vie contemplative pure. Au ciel, on pourra avoir une vie contemplative sans avoir le besoin d'équilibrer cette vie contemplative avec une vie active. Ici-bas, c'est pas possible. Encore une fois, la vie contemplative pure est beaucoup trop dangereuse. Elle est même impossible. Parce que le corps est là pour nous rappeler à nos exigences. De me dire, mais il y a eu des saints qui se nourrissaient que de la Sainte Eucharistie et qui n'avaient pas besoin de manger. Ou des saints qui ont fait des pénitences épouvantables pendant toute leur vie. C'est vrai. Je dirais, c'est peut-être plus admirer qu'à imiter. Mais rappelez-vous cette histoire que je raconte souvent du saint curé d'Ars avec un de ses vicaires. Si mes souvenirs sont exacts, c'était la Bétaillade qui était vicaire, un jeune vicaire qui venait d'être nommé à Ars pour aider le saint curé d'Ars, qui était débordé par les confessions, qui évidemment, quand il a vu les pénitences épouvantables que faisait le saint curé d'Ars, il a voulu faire pareil. Le problème, c'est qu'il a commencé à dépérir, et devenir mec comme un clou, n'avoir plus que la peau sur les os. Et le saint curé d'Ars s'en rendait même pas compte, parce que lui était complètement perdu dans son monde, et dans les confessions, qu'il voyait pas que son vicaire ne mangeait plus rien, et essayait de manger une patate pourrie par jour, comme le faisait le saint curé d'Ars. Et ce sont les fidèles qui ont est venu Saint Curé d'Ars en disant, monsieur le curé, attention, votre vicaire, il essaie de faire comme vous au niveau des pénitences, il va mourir parce que il a pas la force. À ce moment-là, le Saint Curé d'Ars a ouvert les yeux, allé voir son vicaire en disant, comment, qu'est-ce que c'est que ça, j'apprends que vous mangez plus qu'une patate pourrie par jour, eh ben vous le faites bien vous. Oui, mais moi, dit-il, j'ai des grâces spéciales que vous n'avez pas. Et le Saint Curé d'Ars a obligé son vicaire à reprendre une vie matérielle plus équilibrée. On voyait très bien ça aussi chez Monseigneur Lefebvre. L'équilibre de Monseigneur Lefebvre, au séminaire, je me rappelle très bien, il nous avait interdit, par exemple, pour les jours d'adoration, le premier vendredi du mois, on avait une nuit d'adoration complète, et chaque séminariste s'inscrivait pour une heure ou deux, et il nous avait interdit de passer toute la nuit parce qu'il voulait justement qu'on ait une vie équilibrée, et qu'on soit encore en état de faire notre devoir d'état, de suivre nos cours. Si vous passez toute la nuit devant le Saint-Sacrement, pendant la nuit d'adoration, vous n'aurez plus suffisamment de force pour écouter vos cours, vous allez vous endormir pendant les cours. Et nous interdisait aussi au séminaire les jeûnes trop forts, justement parce qu'ils savaient qu'on était en pleine croissance, on avait 20 ans, 25 ans, on était en pleine croissance des jeunes adultes, on avait besoin d'avoir une vie équilibrée de ce côté-là. Monseigneur Lefebvre, s'il y avait une vertu en lui, c'était bien la vertu de prudence. Monseigneur Lefebvre était un homme extrêmement prudent. Alors, continuons. La vérité est donc comme l'emblème de la vie contemplative. La contemplation, c'est la contemplation de la vérité. Ici-bas de façon imparfaite, au ciel de façon parfaite. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est la charité. Deus caritas est. La vérité, c'est... Donc j'aime beaucoup cette phrase. La vérité, l'emblème de la vie contemplative, l'emblème de la contemplation. La raison d'être de la contemplation, c'est la contemplation de la vérité. Vous cherchiez peut-être une montagne pour prier, vous espériez être plus près de Dieu, mais celui qui habite les hauteurs des cieux s'abaisse jusqu'aux humbles. Il vous faut donc descendre pour monter. On descend par l'humilité pour remonter. Remonter après par l'amour de Dieu. On descend par l'humilité pour monter par la contemplation de la vérité. Je vous ai déjà donné ce sens très beau, donné par les pères de l'Église, qui explique que pour aller adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche de Bethléem, cet enfant nouveau-né, emmailloté de Norge, patronne de Vierge Marie, il faut passer par la porte. Or, la porte d'entrée de la grotte est basse. Il faut donc se baisser la tête, les épaules, presque rentrer à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut le contempler et avoir cette contemplation de la vérité que si nous avons suffisamment d'humilité pour nous baisser. C'est pour ça que la vie contemplative, la contemplation de la vérité, est absolument impossible pour les gens orgueilleux. Le pire obstacle de la vie spirituelle, la vie personnelle, auprès de Dieu, le pire obstacle de la vie mystique, de la vie contemplative, c'est évidemment l'orgueil. On ne peut pas avoir de prière mentale avec l'orgueil, c'est impossible. Les orgueilleux n'arrivent pas à prier. Au contraire, quand on commence à s'humilier, souvent le bon Dieu, justement, pour nous apprendre à prier, nous humilie, et on a tendance à se révolter contre ces humiliations sans réaliser que, précisément, ces humiliations vont nous aider à monter vers le bon Dieu, parce que plus je m'humilie, c'est un peu une espèce de vase communicant, si vous voulez, plus je pratique l'humilité, plus je peux monter. Plus je m'abaisse par l'humilité, plus je peux monter vers Dieu par la contemplation de la vérité. Et c'est ça tout le but de la vie contemplative. Donc il faut descendre pour monter. Ce sont les degrés que le chrétien fidèle dispose dans son cœur, dans cette vallée de larmes qui sont la figure de l'humilité. Vous voulez prier dans un temple, priez en vous-même. Mais commencez par devenir le temple de Dieu. Donc il est évident que la première condition pour pouvoir avoir cette vie contemplative dont parle ici notre Seigneur Jésus-Christ, cette eau qui veut donner, qu'il veut, que notre Seigneur veut donner à la Samaritaine, c'est le principe de la contemplation. Eh bien, la première condition, évidemment, c'est d'être le temple de Dieu. Or, on devient temple de Dieu par comment? Par le baptême, évidemment. C'est le baptême qui fait de nous le temple de Dieu. Pas de baptême, pas de temple de Dieu en nous. D'accord? C'est une belle phrase ici, deux très belles phrases des pères. La vérité comme l'emblème de la vie contemplative. Et la deuxième phrase, vous voulez prier dans un temple, priez en vous-même. Commencez par devenir le temple de Dieu. C'est évident, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir vivre dans une âme, il faudrait que l'âme soit disposée à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Si la porte de l'âme est verrouillée à double tour, comment voulez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer dans cette âme et pour venir l'habiter? C'est absolument impossible. Donc première chose, il faudrait peut-être que la porte soit ouverte. Et comment est-ce qu'on ouvre la porte de notre âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir y habiter? Et on ouvre la porte de notre âme par l'état de grâce. Si je vis dans le péché mortel, il est évident que je suis incapable à ce moment-là, absolument incapable, de comprendre notre Seigneur Jésus-Christ et de monter vers lui, vers la contemplation de la vérité par la vie contemplative. Je ne peux pas faire ça parce que je suis retenu sur la terre par un boulet, le boulet du péché mortel. Donc, quelqu'un qui vit dans le péché mortel, évidemment, est incapable de toute vie contemplative. Il ne peut pas avoir une vie contemplative, parce qu'on ne peut pas dire au bon Dieu, mon Dieu, je vous aime, si dans le même temps, on est attaché aux choses de ce monde. Donc, la contemplation, c'est quoi? C'est le détachement progressif de l'attachement trop, trop important aux choses matérielles. Encore une fois, ici-bas, on ne peut pas se détacher complètement des choses matérielles. C'est impossible. Ce serait une erreur de penser que le bon Dieu vous demande simplement d'être devant le Saint-Sacrement en longueur de journée. Non, vous devez passer un temps devant le Saint-Sacrement quand on peut le faire, mais en même temps il faut se sanctifier par la pratique de son devoir d'État. Donc le premier devoir d'État, bien sûr, c'est de prier pour l'âme, mais c'est de prier aussi de façon équilibrée. Et le devoir d'État consiste à remplir la voie que le bon Dieu nous a tracée. Un père de famille doit travailler dur pour nourrir sa femme et ses enfants. Notre devoir d'état d'une mère de famille, c'est pas de passer des heures et des heures devant le Saint-Sacrement, alors qu'elle a toute une série de marmots à la maison, dont il faut qu'elle s'occupe. Bon, une mère de famille qui va passer des heures et des heures devant le Saint-Sacrement à prier en contemplation extraordinaire devant le bon Dieu et qui remplit pas son devoir d'état parce qu'elle s'occupe pas de la lessive, elle s'occupe pas de nettoyer la maison, elle s'occupe pas de préparer à manger pour la famille, elle s'occupe pas de ses enfants, elle manque gravement à son devoir d'état et à ce moment-là, elle peut pécher, même pécher gravement. Donc, attention, il faut être équilibré dans ce domaine. C'est là où la vertu de prudence va intervenir pour équilibrer la contemplation et l'action. L'action doit être équilibrée par la contemplation doit être équilibrée par l'action. Il faut les deux. Donc, la vérité est l'emblème de la contemplation, vie contemplative. Mais pour prier dans un temple, il faut commencer par devenir le temple de Dieu. On devient le temple de Dieu par le baptême, mais on maintient cette beauté de notre temple par l'état de grâce. Donc Dieu est esprit, dit notre Seigneur à la Samaritaine, c'est verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'esprit ici, disent les pères, représente l'adoration spirituelle de la foi, de l'espérance et de la charité, de la dévotion, de la contrition et des autres vertus par lesquelles Dieu est justement adoré par les chrétiens, non pas par des figures et des ombres, mais en vérité. Donc la contemplation, la vie contemplative, elle est basée sur les trois grandes vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Foi pour croire, espérance pour prier, charité pour poursuivre la voie du bon Dieu, poursuivre la loi divine. Il n'y a pas de charité sans suivre la loi des commandements du bon Dieu. Donc ceux qui prétendent avoir la charité et qui ne vivent pas dans l'état de grâce, c'est l'hypocrisie la plus complète. C'est pour ça que la charité est détruite par le péché. Donc il faut la foi et l'espérance comme fondement de la charité, mais la foi et l'espérance qui demeurent même dans le péché mortel, bien que une foi, si on a un tas de péché mortel, on a une foi qu'on appelle informe, une espérance informe parce qu'il manque la vivificance donnée par la charité. La foi et l'espérance doivent monter, sont en quelque sorte les piliers de la charité. Mais si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Rappelez-vous la belle prière de Saint Paul, l'hymne à la charité, au chapitre 13 de la première aux Corinthiens. Si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui retentit, une cloche qui sonne. On entend le coup de cloche et après c'est fini, le son disparaît. C'est donc l'adoration véritable, sincère de Dieu en qui Dieu se complaît. Vous ne vous êtes pas compu dans les holocaustes. Le sacrifice pour Dieu est un esprit contrit. Le sacrifice de louange. Une faute d'orthographe là, qu'il faut que je corrige. Le sacrifice de louange m'honorera. Sacrifiez le sacrifice de justice et ayez confiance dans le Seigneur. Donc, vous voyez, attention à tous ces détails qui sont tellement importants. Sacrifice pour Dieu est un esprit contrit. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit contrit? L'esprit contrition. Conterere, c'est écraser sous le poids du remords. La contrition, c'est quoi? C'est à la fois la douleur du péché passé et en même temps le grand désir d'éliminer les occasions du péché. On ne peut pas avoir de contrition sans un regret de ses péchés, mais pas simplement un regret spéculatif, mais aussi un regret actif. Je regrette mes péchés, mais je garde dans ma vie de tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché mortel. C'est l'hypocrisie pure et simple. Et à ce moment-là, j'arriverai à rien du tout. Donc attention à cela. Donc, il nous faut avoir cet esprit de contrition qui est la première étape de avant de recevoir l'absolution. Un prêtre ne peut pas donner l'absolution à une âme qui n'est pas contrite. Sacrifice pour Dieu est donc un esprit de contrition, le sacrifice de louange m'honorera, sacrifier le sacrifice de justice, ayez confiance dans le Seigneur par la contrition qui doit être accompagnée de l'accusation de ses péchés pour obtenir l'absolution sacerdotale. Rappelez-vous, la matière du sacrement de pénitence, la contrition, l'accusation et aussi la réparation. Et c'est ça qui nous permet de mettre notre âme au diapason avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ peut remplir cette âme à condition qu'elle ait été purifiée par l'absolution. L'absolution ne peut être pas être donnée à quelqu'un qui est dans un tas de péchés mortels par le prêtre sans qu'il y ait ces conditions absolument nécessaires pour obtenir le salut, à savoir la contrition, le regret de ses péchés, la douleur de ses péchés commis dans le passé, jointe à un ferme propos de ne pas recommencer en évitant les occasions prochaines volontaires de péché mortel, mais cette contrition doit être jointe à l'accusation de ses péchés et à la réparation. Mais, donc, mystiquement, Théophylacte, notre père, dit par l'esprit, Dieu est esprit, dit notre Seigneur au verset 24. Par l'esprit, il faut comprendre l'action. Par la vérité, c'est le verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, par le mot esprit, dit Théophylacte, il faut comprendre l'action. Par la vérité, la contemplation. Il faut adorer donc en esprit et en vérité, c'est-à-dire il faut adorer et par la vie active et par la vie contemplative. Donc, une mère de famille qui voudrait passer plus de temps devant le Saint-Sacrement en méditation et qui sait qu'elle a une énorme quantité de linge sale à laver puis à repasser et qui volontairement s'extrait de la chapelle, de la place tranquille qu'elle avait devant le Saint-Sacrement pour aller s'occuper de son devoir d'État et laver ce linge sale qui attend et le repasser, elle a à la fois une vie active et une vie contemplative. La vie contemplative devant le Saint-Sacrement va l'aider à se sanctifier par l'action. Donc, qu'est-ce qui est plus facile, laver le linge sale et le repasser ou être tranquillement devant le Saint-Sacrement? C'est évident que d'être tranquillement devant le Saint-Sacrement, c'est plus facile. Mais si je suis tranquillement devant le Saint-Sacrement et à cause de cette présence devant le Saint-Sacrement, je ne remplis pas mon devoir d'État, il y a quelque chose qui ne va pas. L'exemple classique, c'est la religieuse garde-malade qui a une heure d'adoration devant le Saint-Sacrement, elle est toute contente, enfin devant le Saint-Sacrement, et puis au bout de 5 minutes, elle vient d'arriver devant le Saint-Sacrement, elle est toute en adoration devant son bon Dieu, voilà que la cloche d'un malade retentit, un malade appelle. Est-ce qu'elle doit dire, ah ben moi je suis devant le Saint-Sacrement, tant pis, hein, le malade il va attendre, et puis j'irai m'en occuper, quand j'aurai terminé ma méditation, je serai plus forte pour m'en occuper. Non, la cloche sonne, c'est Dieu qui sonne. La cloche sonne, c'est Dieu qui appelle. Et ce malade qui l'attend, c'est Dieu qui l'attend. Et il faut, je suis une grande vertu pour se dire, bon, ben, tant pis pour la méditation, tant pis pour la contemplation, eh ben, je vais m'occuper du malade et je reviendrai après, premier moment libre, pour m'occuper du bon Dieu. Et le bon Dieu donne beaucoup de grâce à ces religieuses qui acceptent toutes ces difficultés. Voilà encore, donc, une phrase importante de Théophylacte. Donc, il faut adorer notre Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité, en esprit, donc vie active, en vérité, vie contemplative. Et vous voyez, ce « et » unit les deux choses. Donc il doit y avoir une union entre la vie active. Une vie active sans vie contemplative, on tombe dans l'activité. Une vie contemplative sans vie active, on va tomber dans l'angélisme. Et les deux choses sont dangereuses. Il faut éviter et l'activisme et l'angélisme, il faut avoir un équilibre entre les deux. Le corps et l'âme doivent travailler ensemble au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la religieuse en contemplation devant le Saint-Sacrement, très bien, c'est l'âme qui travaille. La religieuse qui va s'occuper de son malade, qui vient la déranger pendant la contemplation, c'est la vie active, mais il faut les deux. Mais si vous voulez, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Un oiseau a besoin de deux ailes pour voler. Donc l'aile de l'action, l'aile de la contemplation. Donc l'âme est comparée à un oiseau qui ne peut pas voler sans avoir ses deux ailes. Donc c'est une belle image de Théophylacte. Adorer Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire adorer Dieu par la vie active et par la vie contemplative. D'autres textes dans cette page 47, je vais aller un petit peu plus vite dans ce passage-là. Saint Augustin dit que Dieu est un esprit incompréhensif, dans le sens qu'il ne peut pas être compris, incorporel, immutable. Rappelez-vous la définition de Dieu. Dieu est un esprit qui est absolument parfait, éternel, infiniment bon, infiniment parfait, qui connaît tout. Un esprit, évidemment, qui n'a pas de corps. Donc Dieu n'a pas cette limite du corps que nous avons ici-bas, parce que Dieu est Dieu, justement. Donc, Dieu est un esprit incompréhensif, incorporel, immuable, qui ne peut être limité par l'espace, partout entier, jamais divisé, présent partout, pénétrant ineffablement toute chose, tout entier, au ciel, sur la terre et partout. Ce qui est résumé dans la formule magnifique que Dieu a donnée de lui-même à Moïse, qui voit le buisson ardent dans le désert. Je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je suis celui qui est toujours, EST toujours. Nous, on passe. On est pèlerin, pas Dieu. Dieu est EST. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Dieu est un esprit tout-puissant, mais qui demeure éternellement, parce qu'en lui, l'essence et l'existence sont identiques, alors qu'en nous, l'essence et l'existence sont séparées. Donc, Dieu est... rappelez-vous l'explication qu'il a donnée, que Dieu a donnée à Sainte Catherine de Siena. Je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas. N'EST, n'est pas. Voilà, c'est tout, tout est là. Donc Dieu est partout, œuvre partout, est en repos partout, rassemblant tout sans avoir besoin de quoi que ce soit, portant toutes choses sans ployer, remplissant toutes choses sans les inclure, créant et protégeant, nourrissant, perfectionnant toutes choses. Belle phrase de saint Augustin. Dieu cherche, mais ne désire rien. Il aime sans être enflammé, il est jaloux sans être troublé, il se repent sans peine, en colère tout en restant tranquille. Il change ses œuvres, mais sans changer ses conseils. Il tient toutes choses, les remplit, les embrasse, est au-dessus de toutes et les soutient toutes. Il soutient et remplit en même temps. Il enseigne les cœurs des fidèles sans utiliser des mots, atteignant avec puissance l'univers d'un bout à l'autre et dispensant avec douceur de toutes choses. Magnifique explication de saint Augustin. Pour ça que Dieu est incompréhensible, dans le sens qu'il ne peut pas être compris. Pour que Dieu puisse être compris par l'esprit humain, il faudrait que Dieu soit limité. Or Dieu est hors du temps. Il est illimité parce que justement, il est en dehors de notre compréhension. On ne peut pas comprendre Dieu, c'est impossible. Même au ciel, nous ne pourrons pas comprendre Dieu comme tel qu'il est, tel qu'il se comprend lui-même. Parce que pour qu'on se comprendre Dieu tel qu'il est lui-même, il faudrait Dieu nous-mêmes, ce qui est évidemment absolument impossible. Autre phrase magnifique de saint Ambroise. Ô Créateur le plus grand, le plus haut des choses invisibles, vous êtes invisible sans jamais être saisi par une autre nature, dignité après laquelle aspirent toutes les natures intelligentes qui doivent sans cesse remercier, courber le genou, supplier par des prières insistantes. Dieu est. Il faut méditer sur cette formule. Je suis celui qui est. Je ne passe pas dans le temps parce que je suis au-dessus du temps. L'éternité, c'est quoi ? L'éternité, c'est l'absence de temps, quelque chose d'incompréhensible pour nous. Donc il est la première cause, le lieu et l'espace des choses, la fondation de tout ce qui est infini, pas encore né, immortel, éternel, l'unique, jamais délimité, ni circonscrit, sans qualité ni taille. Personne ne peut parler de vous, ô Dieu, en s'exprimant avec des mots mortels. Nous devons garder le silence pour vous comprendre, ne pouvant que murmurer dans l'ombre. On voit très bien que tous ceux qui ont visité d'une certaine façon, en prière ou de façon physique, on ne sait pas très bien, qui ont été transportés au ciel, ils sont incapables d'expliquer ce qu'ils ont vu. Saint Paul a eu cette vision du ciel, et il dit, l'homme ne peut pas comprendre, les mots humains ne peuvent pas être utilisés pour expliquer ce que j'ai vu. Tous les saints qui ont une certaine vision du ciel sont incapables d'expliquer leur vision. Et tous les grands saints qui ont vu la Sainte Vierge, par exemple, pourtant la Sainte Vierge n'est pas Dieu, mais elle est mère de Dieu, elle est proche de Dieu, donc elle a une partie du rayonnement divin en elle, et qui ont vu la Sainte Vierge, ils disent, mais la beauté de la Très Sainte Vierge est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et les enfants de Fatima, par exemple, lorsqu'ils ont vu la Sainte Vierge de Fatima, le sculpteur qui faisait la statue Notre-Dame de Fatima a demandé aux enfants des explications pour essayer de faire une statue qui était aussi ressemblante que possible de la véritable apparition. Et les enfants ont dit, mais elle est infiniment plus belle que cette statue. Infiniment plus belle. Donc avec de l'argile, du bois, du fer, on ne peut pas faire quelque chose qui représente la véritable beauté de notre Sainte Vierge Marie, parce que notre Sainte Vierge Marie étant mère de Dieu, elle touche la divinité, même si elle n'est pas Dieu elle-même. Donc je vous conseille beaucoup de relire ces passages magnifiques des Pères. Je vais un petit peu doucement dans ces passages qui sont splendides. Relisez, je vous l'ai déjà souvent dit. Je souhaite beaucoup que les gens... qui étudie ces textes avec moi, qui suit mes cours d'exégèse sur le site d'Amarie, après les cours relient et prennent le temps pendant la semaine de relire le texte sacré d'évangile qu'on médite, mais en même temps relient ces textes qui sont dans le polycopier. Rien ne vous empêche, pour ceux qui ont du temps, hein, même d'aller carrément aller chercher par exemple dans les textes même de saint Thomas d'Aquin, la chaîne d'or, d'aller chercher ces textes qui ont été publiés en français pour lire complètement tous les textes des pères de l'Église sur le sujet, tels qu'ils sont cités par saint Thomas d'Aquin. Moi, j'ai pris que certaines choses. Continuons en bas de la page 47, les versets 25 et 26. La femme lui dit : je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Lors donc qu'il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui vous parle. Donc ici, notre Seigneur Jésus-Christ s'annonce comme étant le Messie. Je sais que le Messie doit venir. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui vous parle. Donc là, c'est extraordinaire. Notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, fait tomber le rideau, fait tomber le voile pour se déclarer le Messie, donc Dieu. Alors, quelques commentaires ici des Pères. Page 48. Peut-être est-ce pour confirmer l'explication allégorique qui fait voir les cinq sens du corps dans les cinq maris de cette femme qu'après les cinq premières réponses qui sont encore charnelles dans leur objet, elle nomme le Christ à la sixième. Hein? Donc, notre Seigneur, on voit très bien monter cette femme samaritaine. On va voir après qu'elle s'appelle Photine. Cette femme samaritaine, il va la monter des choses matérielles de plus en plus haut. Il la monte vers la montagne. Cette montagne, c'est le Christ. Et maintenant, là, il arrive au sommet de la montagne et là, il se dévoile. On peut dire que ces paroles, je le suis, moi qui vous parle, ça correspond à une théophanie. C'est-à-dire, c'est un peu comme la contemplation de Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean qui sont au sommet du Tabor, et c'est la transfiguration. C'est une transfiguration, littéralement. Je le suis, moi qui vous parle. Donc, de même que les apôtres qui sont montés au sommet du Tabor avec notre Seigneur Jésus-Christ, ils voient notre Seigneur Jésus-Christ qui dévoile une toute petite partie de sa divinité. Ses habits deviennent d'une blancheur extraordinaire que le foulon ne peut pas donner. Son visage devient éclatant comme la lumière du soleil. Ils sont complètement paniqués. Mais en même temps, ils ont cette joie. Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Ils ont cette joie extraordinaire de voir, cette joie, cette peur de voir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que notre Seigneur Jésus-Christ n'a fait que dévoiler une toute petite partie de sa divinité. Et bien là, Jésus lui dit, je le suis, moi qui vous parle, je suis le Messie. C'est une théophanie. Il dévoile, je suis Dieu. La Samaritaine, donc, au puits, est la figure de l'Église, de l'âme qui arrive à la grâce. Une phase magnifique. C'est l'âme qui monte, si vous voulez, par la voie purgative, la voie de purification, qui arrive à la voie illuminative. Illuminare en latin, c'est être illuminé, c'est éclairer. Donc, il faut passer par la voie purgative, passer par la voie de pénitence pour arriver à la voie d'illumination. Et la voie d'illumination, deuxième étape, permet d'arriver à la voie unitive. La voie unitive, c'est la voie mystique. Vous voyez ? Donc, la Samaritaine qui est montée par Dieu, on voit très bien dans ce long texte de préparation qui culmine avec ce verset 26, « Je le suis, moi qui vous parle », alors qu'il y a toute une série de versets auparavant qui montrent le travail psychologique que notre Seigneur Jésus-Christ, le travail de la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ donne à cette femme qui arrive comme païenne, et qui va arriver tellement proche de Dieu qu'elle va trouver la foi. Je suis Dieu, moi qui vous parle. Donc la Samaritaine, au puits de Jacob, est la figure de l'Église et de l'âme qui arrive à la grâce sanctifiante. C'est l'âme qui retrouve la paix du bon Dieu par la grâce sanctifiante. Imaginez une âme qui... C'est très beau, moi j'avoue, je suis toujours sensible à ça quand je confesse, surtout confession générale de retraite, une âme qui ne s'est pas confessée depuis très longtemps, qui s'est traînée, qui s'est littéralement traînée jusqu'au confessionnal en vainquant des tas de problèmes, des tas de difficultés. J'ai vu des gens qui, pour se confesser, ont fait 2-3 heures de voiture. Par les temps qui courent, avec le prix du carburant, il faut le faire, c'est pas évident. Des gens qui ont fait des gros sacrifices, prendre la voiture, rouler 3 heures, venir voir le prêtre, parce qu'ils voulaient absolument se confesser auprès d'un prêtre non unakum, il n'y en avait pas dans leur coin, donc ils ont pris la voiture, rouler 2 heures et demie, 3 heures, et venir au confessionnal. Ils ont bien préparé leur confession générale, et là ils avouent tous leurs péchés. Leur âme est noircie par le péché. Et au moment où le prêtre leur dit, Ego te absolvo peccatis tui, si nomine patris et filii et spiritus sancti, je t'absous de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'un seul coup, c'est une espèce de tornade de grâce qui envahit cette âme, et la lumière de la grâce détruit d'un seul coup, comme un feu dévorant, si vous voulez, qui va détruire d'un seul coup toute la corruption du péché. Et l'âme, tout enténébrée par le péché, va devenir une beauté extraordinaire. Et l'âme, toute noircie par le péché, ressort du confessionnal, brillante comme un soleil. Et j'ai vu des gens qui s'étaient pas confessés depuis longtemps, qui réalisaient cela, sortir du confessionnal en pleurant comme des gamins, en pleurant d'émotion, de voir qu'ils ont enfin retrouvé la grâce du bon Dieu. Ils vont faire leur action de grâce devant le Saint-Sacrement, qui dure souvent assez longtemps, et après ils viennent me remercier, et monsieur l'abbé, merci pour ce pardon de mes péchés. J'en dis toujours, mais c'est pas moi qu'il faut remercier, le prêtre c'est un pauvre type, il faut remercier celui qui m'a donné ce pouvoir. C'est Dieu qui vous a pardonné. Allez en paix, aimez le bon Dieu, et la meilleure façon de réparer, c'est de garder l'état de grâce, évidemment. Maintenant que vous êtes sorti du péché, vous êtes sorti de l'ornière du péché, gardez votre âme dans la beauté de la grâce. Voilà ce qu'il faut faire. Saint Augustin, donc, voit, au bout de la page 48, dans ces 5 maris que cette femme a eus, les sens corporels auxquels l'âme éloignée du Christ s'est abandonnée, l'empire de la chair qui pèse sur tout homme et qui ne sait pas servir de sa raison. Qu'elle appelle donc le véritable époux, l'intelligence, si elle veut comprendre les choses qu'il lui révèle. C'est des textes un peu similaires à ceux que nous avons déjà vus. Donc, notre Seigneur apparaît fatigué du chemin, afin de relever ceux qui sont fatigués. Il demande à boire, mais il se prépare à donner à toutes les âmes altérées une boisson rafraîchissante. Il a faim, et il se prépare à donner à tous ceux qui ont faim la nourriture du salut. Il meurt, et il apporte la vie. Il est enseveli, mais pour ressusciter. Il est suspendu sur un bois tremblant, mais il affermira tous ceux qui tremblent. Il remplit le ciel des ténèbres, mais pour leur donner la lumière. Il fait trembler la terre pour affermir les hommes. Il agite la mer pour la calmer. Il ouvre les tombeaux des morts pour montrer qu'ils sont le séjour de la vie. Il naît d'une vierge pour qu'on sache qu'il est né de Dieu. Il apparaît adorant avec les autres hommes afin d'être adoré comme le vrai Fils de Dieu. Je pense que c'est Saint Augustin, c'est exactement son style. Un texte magnifique. Tout ce que donne notre Seigneur Jésus-Christ. Il va relever ceux qui sont fatigués, abreuver ceux qui ont soif. Donner à manger à ceux qui ont faim, apporter la vie à ceux qui sont morts, ressusciter ceux qui sont ensevelis. Lorsque je serai élevé de ciel sur la croix, j'attirerai tout à moi, c'est ce qu'il a dit. Donc il va illuminer les ténèbres pour leur donner la lumière, il va faire trembler la terre pour affermir les hommes, faire sortir les morts des tombeaux. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui se lève à l'avant de la barque pour calmer la tempête. Le calme revient. Il ouvre les tombeaux des morts pour montrer qu'ils sont le séjour de la vie. Et c'est là la comparaison de saint Augustin avec la Vierge. Il naît d'une Vierge pour qu'on sache qu'il est né de Dieu. Il apparaît adorant que les autres hommes vont être adorés comme le vrai Fils de Dieu. Et d'un seul coup, la Samaritaine va comprendre tout cela. Et donc relisez ce texte magnifique. Notre Seigneur Jésus-Christ qui accepte justement d'être le dernier des derniers pour venir apporter par la mort, sa mort sur la croix, le salut au monde. Alors le martyrologe romain donc fête cette Samaritaine, donc il est canonisé par l'Église, le 20 mars, en lui donnant le nom de Photine, Sainte Photine. Et dans le calendrier grec, elle est fêtée au 26 février. Donc, on ne connaît pas grand-chose sur elle, mais on sait qu'elle se serait attachée à notre Seigneur Jésus-Christ avec ses deux enfants, Joseph et Victor. Et également Sébastien, qui était général, les frères Anatole et Photius, qui tous confessèrent le Christ sur terre, le martyr. Donc la tête de Sainte Photine est religieusement conservée à Rome, dans la basilique de Saint-Paul. Donc cette Samaritaine a un nom. On peut donner un nom maintenant. Sainte Photine. Hein. De même qu'on peut donner maintenant un nom. Alors pendant des années, des siècles et des siècles, on a ignoré qui était la Sainte Véronique. On avait appelé Véronique parce que Véronique, c'est du grec qui veut dire la véritable image qu'elle avait reçue sur son voile, l'image du Christ. On l'appelait Véronique, la vraie icône. Et maintenant, on sait que c'est Sainte Bernice, qui a évangélisé l'Aquitaine. Ici, c'est Sainte Photine. Donc faites volontairement la volonté de Dieu. Vous ferez votre volonté et ce ne sera pas votre volonté mais la volonté de celui qui vous commande. Notre Seigneur délivre l'homme du vêtement de la loi pour le revêtir du vêtement de la grâce. Donc il élève Sainte Photine, la Samaritaine, du temple de l'erreur au temple de la vérité. C'est un texte magnifique qu'il faut bien comprendre. Des disciples de l'erreur, Rome est devenue disciple de la vérité. Un texte de Saint Léon qu'on a pour Noël. Donc il faut monter justement de Garizim, qui représente la Babylone, l'esprit du monde, à Jérusalem, qui représente la Jérusalem céleste, et devenir disciple de la vérité. Donc c'est par l'esprit d'humilité que l'on arrive à l'esprit de pauvreté. L'esprit d'humilité qui nous fait sentir tout ce qu'il y a d'indigence en nous, de vanité dans les créatures, de richesse en Dieu. Et dans le sentiment de la bonté de Dieu, cet esprit nous mène à des rapports incessants et confiants avec Dieu. Bienheureux les mendiants de Dieu. Quelle belle phrase. Le contemplatif, c'est le mendiant de Dieu. Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Rappelez-vous l'aveugle qui entend notre Seigneur qui arrive et il dit, c'est quoi ce bruit? C'est Jésus de Nazareth qui arrive. Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Et notre Seigneur fait semblant de ne pas entendre. Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Et crie pour obtenir que notre Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Seigneur, que je vois. Et notre Seigneur Jésus qui va faire le miracle, il va lui rendre la vie, la vue corporelle et la vue spirituelle. Il faut faire pareil. Nous aussi, nous devons devenir les mendiants de Dieu. C'est extraordinaire, j'aime beaucoup cette phrase. Bienheureux les mendiants de Dieu. Il nous faut devenir des mendiants de Dieu. Et Dieu va nous donner les grâces à condition qu'on les demande. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez en vous ouvrira. Si vous ne voulez pas chercher, vous ne voulez pas frapper, vous ne voulez pas demander, vous n'êtes pas un mendiant de Dieu, sinon vous n'obtiendrez rien du tout. Donc il faut posséder les richesses pour faire le bien et pas en être possédé. Moins vous les désirez, plus vous en serez les maîtres. Oui, il faut demander cette grâce de devenir les mendiants de notre Seigneur Jésus-Christ. La La colère, dit saint Basile, est une folie momentanée. La vraie marque de l'innocence conservée ou recouvrée, c'est la douceur. On voit très bien la douceur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Sacré-Cœur. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et je vous referai. Donc Dieu leur annonce une persécution aux Juifs plus difficile à supporter que la persécution violente, la persécution du mépris. C'est ce qui se passe actuellement. Tous les chrétiens ne connaîtront pas la persécution sanglante, mais tous connaîtront celle-ci. Leur nom sera bafoué. Ça, c'est notre vie d'ici-bas. Je ne sais pas si nous allons avoir la persécution physique, quoique avec la dictature sanitaire, ça peut bien arriver. Mais en tout cas, on voit très bien ce mépris du monde. Nous sommes devenus comme l'ordure du monde. Pour les gens du monde, le chrétien, c'est devenu l'ordure du monde. Mais cette ordure du monde, devant le monde, va devenir un or précieux pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut arriver à supporter cette persécution psychique, ce mépris constant contre l'Église. On souffre beaucoup, moi je souffre énormément, je suis sûr que vous souffrez autant que moi, de voir ce mépris contre l'Église du monde moderne, ce mépris contre le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On demande qu'une seule chose, c'est que l'Église soit honorée, et l'Église est méprisée, surtout par Bergoglio, par tous ses sbires, tous ces le démon et ses œuvres qui sont là, qui travaillent pour détruire l'Église catholique, détruire la foi catholique, détruire l'espérance catholique, détruire la charité catholique. On voudrait tant que notre Seigneur Jésus-Christ puisse être régné dans son royaume. C'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ en face de nous. Ceux qui sont en principe supposés servir notre Seigneur Jésus-Christ ne font que nous rapacer, essayer de nous demander d'adorer le monde. Donc, ayant cette douceur, le bon Dieu nous demande d'avoir la douceur, la prudence du serpent, mais la douceur de la colombe. Alors là, il y a un autre texte de saint Jérôme. Il y a une aumône que vous pouvez toujours faire sans craindre d'épuiser votre trésor et en augmentant toujours. C'est l'aumône de la vérité qui est le pain de l'âme. Les blessures de l'ami sont meilleures que les baisers de l'ennemi. Il est meilleur d'aimer avec sévérité que de tromper avec douceur. Quelle magnifique phrase de saint Jérôme. Il est meilleur d'aimer avec sévérité que de tromper avec douceur. D'aimer avec sévérité, c'est la foi catholique. Tromper avec douceur, c'est la foi de Bergoglio. Aimer avec vérité, c'est l'enseignement de saint Pédis. Tromper avec douceur, l'enseignement de Bergoglio. Là, on voit très bien ces deux mondes qui s'opposent, le monde de la vérité, l'Église catholique, le monde de l'erreur, l'Église de Vatican II. Voilà, eh bien, je vais arrêter là. Et avec la grâce du bon Dieu, je reprendrai le prochain cours au verset 27. Donc, je vous conseille beaucoup, encore une fois, de reprendre tous ces textes splendides, de les relire. Il faut relire les pères de l'Église pour s'en incorporer, il faut pas que, littéralement, cet enseignement passe dans nos âmes par osmose, passe dans nos intelligences par osmose. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.